And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
Hey, Frank, a little birdie told me you don't need a satellite dish to get DirecTV.
What's little birdie?
Was it Jimmy the Sparrow?
It's a figure of speech. Point is, you can stream DirecTV over the internet now.
Oh, sure. Next you're going to tell me those big birds are made of metal and filled with people, right?
You mean airplanes?
Stream DirecTV without a satellite dish. Call 1-800-DIRECTV. Terms or restrictions apply.
Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets, and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en ce vendredi 17 mars et comme toujours, je suis avec Arpin Basu, mais Arpin qui est en Floride en ce moment, à Tampa Bay plus précisément. Ce soir, il va assister à l'intronisation de Martin Saint-Louis et de Vincent Lecavalier au tout nouveau temple de la renommée du Lightning de Tampa Bay. Salut Arpin!
Oui, salut. Salut, toute une journée à Tampa. Une petite drôle d'anecdote après l'entraînement du Canadien aujourd'hui qu'on va discuter très bientôt. J'ai demandé à Martin Saint-Louis, as-tu préparé un discours? Il dit, quoi? J'étais comme, as-tu préparé un discours? Il dit, ah, non. Ben, tu vas-tu faire un discours? Il dit, honnêtement, je sais pas. Je suis comme, ben voyons, tu vas sûrement faire un discours. Ouais, honnêtement, je sais pas, mais si jamais je dois faire un discours, je pense que je vais me débrouiller. I was like, ça, c'est Martin Saint-Louis, là. Honnêtement, in a nutshell, ce gars-là est tellement bien admis dans sa dispo média que il a pas la tête à cette intronisation. Il a pas la tête à ça. Il a la tête ailleurs. Il y a plein de choses qui se passent avec son équipe en ce moment. Alors, on devrait en parler maintenant.
Ben oui, absolument. Écoute, d'abord, je pense que pour lancer la discussion, il n'y a pas de meilleur point de départ que le match de fou auquel on a assisté hier, qui nous amène à tout plein d'embranchements. Mais écoute, toi, tu étais sur place, ça a été... c'est un fou roulant, c'était ridicule. Écoute, 7 buts dans les 10 premières minutes, ça égale un record de la Ligue nationale. Les trois gardiens étaient incapables d'arrêter la rondelle. Que ce soit Bobrovsky d'un bord ou bien, évidemment, Montembeau et Allen de l'autre, ça a été...
Et Montembeau encore.
Et Montembeau. Mais quoi qu'il a fini, avec quoi? 18 arrêts consécutifs. Là,
ouais, il a pris... Montembeau 2,0 était meilleur que la première version, c'est ça?
Oui, absolument, absolument. Puis Jake Allen, je pense, très, très contrit, reconnaît que... qui a absolument rien de bon à tirer de ce match-là hier. Tu sais, d'habitude, il dit les gardiens de but, on va regarder. Tu sais, il y a 98% des matchs dans une saison qu'on prend la peine de regarder le vidéo puis de dire, OK, c'est quoi les bons éléments, c'est quoi les éléments à améliorer. Puis, mais dans ce cas-ci, tu ignores, tu jettes tout aux poubelles puis tu passes au prochain appel. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de m'imaginer que ce groupe-là pourrait se présenter demain soir face au Lightning de Tampa Bay en étant encore un petit peu en choc post-traumatique, un petit peu, tu sais, comme c'était, comme on dit en anglais, shell shock.
Oui, mais écoute, c'est une journée de travail quand même assez significative pour le Canadien vendredi. En réaction à ce qui s'est passé, évidemment, jeudi soir, dans le sud de la Floride, plus qu'une heure, une heure et vingt sur la glace, Martin Saint-Louis, avec ses joueurs. Il était pas fâché, mais il était concentré. il était intense. Et c'était un entraînement avec un but qui était très clair pour n'importe qui regardait ce qu'il faisait sur la glace. En fait, c'est drôle, le premier exercice de l'entraînement, j'étais assis avec notre collègue Jonathan Bernier du Journal de Montréal, puis c'était un exercice tellement simple qui juste servait à tirer la rondelle contre les gardiens, mais des tirs vraiment inoffensifs, puis je suis comme, c'est-tu un exercice simplement pour redonner confiance à ces gardiens? Puis Jonathan était comme, ouais, je pense, parce que je vois pas aucune autre raison pourquoi faire ça. Mais après ça, le vrai travail a commencé, puis c'était vraiment axé sur le match. Mais avant qu'on parle de ça, faut parler d'abord de ce qui n'était pas à l'entraînement. Il y avait Caden Gooley selon le Canadien, la version officielle, c'est que c'était une journée de thérapie pour Caden Gooley. On se rappelle qu'il a mal tombé contre la bande, contre la Floride. Il est revenu dans le match, mais il est parti, il a quitté la glace en boitant pas mal, puis il a quitté dans le vestiaire pendant 5-6 minutes, puis il est revenu, puis il a terminé le match, mais il n'était pas à l'entraînement. Alors ça, c'est à suivre pour samedi. L'autre absence, c'était Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, ça a l'air qu'il a raté un meeting d'équipe ce matin, vendredi matin. Alors, Martin l'a dit de ne pas se présenter à l'entraînement. Il a dit que ça... En fait, il n'a pas dit d'une façon ou d'une autre s'il jouerait samedi. Moi, sauf si Caden Gooley n'est pas capable de jouer, moi, ça me surprendrait que Jonathan Drouin joue dans ce match-là, mais on verra samedi.
Ben c'est ça, parce que là, s'il décide de le réprimander puis de dire « tu joues pas, on va jouer à 11 attaquants, 7 défenseurs », encore faut-il qu'il laisse 7 défenseurs sous la main. Tu sais, Chris Weidman, là, il est un petit peu au jour le jour pour le reste de la saison. Caden Gooley, son cas est incertain. Il a besoin de ses 7 défenseurs s'il veut passer à l'action à ce niveau-là. Là.
Ben c'est ça. Écoute, Weidman est disponible. Gooley, en principe, devrait être disponible. J'imagine que son cas est up in the air un peu. Mais c'est ça. Je pense, moi, à mon avis, et je pense que c'est pour ça que Martin ne voulait pas dire définitivement que Jonathan Drouin ne jouerait pas samedi, parce que si jamais Gooley n'est pas disponible, effectivement, il va falloir que Drouin joue. Ce qui serait un peu plate, honnêtement, pour Martin Saint-Louis, parce qu'il était très clair sur le fait que c'est non négociable. Tu peux pas juste rater un meeting de même, particulièrement après un match comme le Canadien a joué jeudi, avant un entraînement comme ils ont eu vendredi, avec une tellement jeune équipe. C'est vraiment quelque chose que Martin doit driver le message que ça, c'est inacceptable. Tu peux pas. Et particulièrement dans le contexte dans lequel ça a été manqué. Écoute, ça se peut que Jonathan Drouin a une bonne raison d'avoir manqué cette réunion-là. Il n'y aurait pas une bonne raison d'avertir quelqu'un si jamais il y avait un inconvénient ou il y avait quelque chose qui l'empêchait d'assister aux réunions. Tu devrais, au minimum, informer quelqu'un. Et puis Martin n'avait pas l'air d'un gars qui était très sympathique à n'importe quelle raison que Jonathan aurait pu avoir. Alors, c'est vraiment la première fois qu'on voit Martin Saint-Louis faire quelque chose, poser un geste comme ça. Et c'est effectivement pour montrer aux jeunes joueurs, puis il a dit par après, tu sais, on est une équipe jeune, ces affaires de culture-là sont importantes. Il faut absolument que notre culture soit forte.
Mm-hmm.
Peu importe ce qui se passe sur la glace, peu importe les résultats, peu importe le classement, ce que je pense, au moins, Martin Saint-Louis veut sortir avec, à la fin de cette saison-là, c'est la fondation d'une culture. Et ça, ça a été une opportunité pour Martin de... Ben, pas une opportunité, je pense qu'il préférait ne pas à le faire, mais le fait que j'entends à manquer un meeting, il fallait qu'il agisse. Il fallait qu'il fasse quelque chose, puis c'est ça, il a dit, tu sais, quand tu fais quelque chose, il y a des conséquences. Alors, voilà.
Ben, un entraîneur-chef a tout le temps des occasions, à un moment donné, de pouvoir tracer la ligne, démontrer son autorité, pas nécessairement pour dire « voici c'est qui le boss », mais pour saisir des occasions où ce qu'il prêche, ce qu'il veut mettre en pratique, il doit être appliqué. Il est devant une situation où Il doit passer de la parole aux actes, de la même manière qu'il l'attend de ses joueurs. Puis ça, c'en était une excellente occasion. Puis tu te dis, ben, peu importe le résultat, effectivement, ça doit être valide dans toutes circonstances. Mais je pense qu'à plus forte raison, au lendemain d'un match comme celui-là, qui a ébranlé des records d'équipe, pratiquement, en termes de buts accordés, puis tu sais, ça a été... C'était impressionnant comme mauvaise qualité de jeu défensif. Quand Martin Saint-Louis disait après la rencontre, jeudi soir, on a carrément oublié tous nos concepts défensifs. C'est important que tout le monde se rallie le lendemain et dise « OK, là, on est prêt à repartir au travail. » Puis je pense que ça devient d'autant plus inacceptable à ce moment-là. Puis quand un entraîneur utilise les mots de dire « c'est non négociable », puis les choses qui sont non négociables, les entraîneurs les identifient auprès de leurs joueurs. Ils font leur petite liste, puis ils leur disent « ça, pour moi, ça passe pas ». Mais le jour où ça se présente, ben si c'est non négociable, tu le négocies pas. C'est clairement ça. Alors, dans ce cas-ci, effectivement, j'espère pour l'entraîneur qu'il va avoir l'occasion de pouvoir compter sur Kellen Goulie. Mais moi, ce que ça me... Quand je regarde la situation de Jonathan Drouin, puis j'ignore les circonstances qui ont fait en sorte qu'il a raté ce meeting d'équipe-là, mais ce qui me frappe, c'est que c'est un acte, pour moi, de sabotage envers lui-même. C'est incroyable parce que Jonathan Drouin, là, depuis le 1er janvier, est le premier marqueur chez le Canadien de Montréal. Il a marqué 20 points à ses 25 derniers matchs. En début de saison, ça avait très mal commencé, 6 mentions d'aide en 21 matchs, mais depuis le 1er janvier, il est le premier marqueur de cette équipe-là. Il roule à 1 point par match depuis la date limite des transactions. Alors, il est dans une situation où normalement, là, si lui veut se montrer en vitrine, montrer qu'il est prêt à obtenir un nouveau contrat dans une autre organisation, qu'il est capable d'être un joueur responsable sur qui on peut compter. Vraiment, son jeu avait pris du momentum. Il était crédible sur la glace. Il prenait beaucoup moins de détours que par le passé. Puis, il ne m'apparaissait pas comme un joueur qui avait froid aux yeux. Il jouait du bon hockey. Puis là, au milieu d'une passe où même si collectivement ça va pas bien, lui personnellement ça allait bien. Puis là, au milieu de cette passe-là, ben il fait cette boulette-là. Tu dis, my God, pour l'art de se tirer dans le pied, ça me dépasse. Ça me dépasse.
Ouais, effectivement, il y avait du momentum, mais il faut le dire que, écoute, parmi plusieurs joueurs, je veux pas blâmer Jonathan Drouin pour ce qui s'est passé jeudi soir. Mais il n'a pas connu son meilleur match. On s'entend là-dessus.
Aucun doute.
Puis il y en avait plusieurs. Puis en fait, un autre qui n'a pas connu son meilleur match, c'était Jonathan Kovacevic. Puis il a parlé de ces réunions-là ce matin, à quel point c'était important de revoir les erreurs pour être capable de passer à autre chose. Tu sais, c'était quand même une réunion importante. T'sais, Kovacevic, je lui ai parlé comme parce que, écoute, il était sur la glace pour plusieurs buts. Puis c'était pas juste qu'il était sur la glace, il était le point d'emphase sur la grande majorité de ces buts-là. Alors, il a connu un match difficile, il le reconnaissait, puis pendant le match, c'est, il fallait qu'il gère ça, qu'il gère un match qui a juste commencé sur le mauvais pied d'une façon qu'il n'a probablement jamais vue dans la Ligue nationale. Alors, il a parlé de l'importance de ces réunions-là. Alors, par après, on apprend que Jonathan Drouin a raté ces réunions-là. On venait juste de voir l'entraînement où toute l'emphase était sur le jeu défensif et toutes les corrections que Martin Saint-Louis et ses entraîneurs voulaient apporter. Puis c'est rare. C'est rare qu'on voit le Canadien patiner pendant si longtemps. Et écoute, je veux pas que le monde comprenne mal. C'était pas une question de juste patiner.
C'était pas un backskate.
Non, c'était pas un backskate. C'était pas punitif nécessairement. C'était quelque chose avec où il y avait clairement des points de repère que Martin Saint-Louis voulait retrouver. Et ils ont travaillé longtemps là-dessus. Il faut se rappeler aussi que ils ont fait cet entraînement-là, mais tu sais, Martin Saint-Louis a quand même une grosse soirée devant lui. Là. C'est pas comme si c'était un jour où ça lui tenterait nécessairement de faire un entraînement d'une heure et quart. C'est ce qui est on peut pas mettre plus d'emphase sur le fait que à quel point un entraînement comme ça est rare pendant une saison. Un long entraînement comme ça.
Surtout à ce temps-ci de l'année.
Surtout avec le calendrier que le Canadien joue, où il joue à chaque deux jours, où il joue, je pense qu'il joue 16 matchs en mois de mars. Alors, c'était clair que ça lui a atteint ce qui est arrivé jeudi. Martin et ses joueurs. Alors, tout le package du meeting, de l'entraînement, tout ça, c'était une façon de... On va dealer avec ça, on va travailler, puis on le laisse derrière nous. Puis, je pense que c'est ça qui était comme le plus décevant, qu'un joueur, quand même un vétéran sur l'équipe, sur une jeune équipe, qui choisit ce moment-là de ne pas se présenter à une réunion, c'est pas idéal. Puis, comme tu disais, c'est quand même... Jonathan s'en va vers un été quand même assez important. Là. C'est un gars qui n'a pas de contrat. C'est sûr qu'il ne revient pas à Montréal. Mais s'il veut jouer à quelque part, il était en train de prouver que peut-être qu'il pourrait le faire. T'sais. Puis là, ça nuit un peu à ça, mais on verra. Mais c'est ça. Puis on verra samedi ce qui va se passer. Mais c'était un peu de drame dans la journée du Canadien vendredi qui s'est inséré un peu de nulle part.
L'autre question que je me pose, c'est, tu sais, quand je regarde le Canadien qui accorde 9 buts aux Panthers de la Floride,
seulement 9.
9, ben oui, c'est ça.
Seulement
9,
parce qu'ils ont donné 7 dans 13 minutes.
Ils ont vraiment fait
les valves. Ouais, c'est ça. Ils ont réussi à les limiter à 9.
Alors, mais le match précédent, il avait donné 4 buts à Pittsburgh, ils en ont donné 8 à l'Avalanche du Colorado. Donc, depuis 3 matchs, il y a une espèce de glissement. Puis là, c'est drôle parce que on se retrouve dans une situation où là, demain, le Canadien est à Tampa Bay. En fait, les deux prochains matchs du Canadien sont contre le Lightning de Tampa Bay, puis après ça va être à Boston. Gros trio de rencontres à venir pour le Canadien, mais... Tout ça pour dire, donc, on est dans une séquence de matchs contre les équipes de la Floride, ce qui fait un peu un écho au voyage du temps des fêtes. Uh-huh. Dans quelle mesure penses-tu que le Canadien est un peu de retour à la case départ en termes de, t'sais, d'avoir perdu justement ses repères en défense, d'avoir un peu, évidemment, la fiche victoire-défaite aussi parle. C'est une équipe quand même qui a remporté un seul de ses 9 derniers matchs. Est-ce que vois-tu une grosse différence personnellement entre le Canadien qu'on voit là, celui que tu as vu à l'entraînement aujourd'hui plancher en vue de son match contre le Lightning demain, puis celui qui, à la même époque, quand Noël et le jour de l'an, était là, puis pataugeait là aussi dans une série de défaites?
Ben, sur la glace, non. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Puis je pense que la grande différence, c'est Martin. Martin le reconnaît, tu sais, l'entraînement de vendredi. Je suis convaincu que c'est basé un peu sur cette expérience-là qu'il a connue pendant le temps des fêtes. Ou peut-être qu'il n'a pas agi assez fort, assez rapidement, puis penser qu'il voulait laisser les gars se corriger eux-mêmes. C'est quelque chose que Martin veut souvent faire, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie en passant. C'est de laisser tes joueurs grandir en se corrigeant. Mm-hmm. Mais je pense qu'aussi qu'il a appris pendant le temps des fêtes. Tu sais, honnêtement, après l'entraînement aujourd'hui, je l'ai dit que s'il y avait du déjà-vu à cause de ce voyage du temps des fêtes, est-ce qu'il y avait le même sentiment? Puis il a dit oui, un petit peu. Alors, c'est pour ça que on a vu l'acharnement à l'entraînement, le focus de l'entraînement. Écoute, à un moment donné, il avait expliqué un exercice. Je ne peux pas l'expliquer qu'est-ce que c'était l'exercice, mais il avait donné des instructions. Je pense que c'est Raphaël Harvey-Pinard et Denis Gourianov qui a commencé l'exercice, où il était deuxième à aller, puis ils n'ont pas suivi les instructions. Et Martin, il fallait qu'il siffle, qu'il arrête, puis il était comme, je viens de te dire quoi faire. comment ça se fait que t'as pas fait ce que t'es supposé faire? C'est comme... Mm. Alors, tu sais, Martin, ce qu'il a dit qu'il a appris, pas aujourd'hui, mais auparavant, ce qu'il a dit qu'il a appris du voyage des fêtes, c'est que quand tu perds ton base, et pour lui, la base, c'est leur jeu défensif, quand tu perds ça, il faut tout abandonner les projets que tu avais en cours, puis il faut revenir à ce base-là. Puis une fois que tu reprends ce base défensif-là, tu peux reprendre les autres projets sur lesquels tu travaillais. Alors là, c'est ça qu'il a fait aujourd'hui. C'est ça qu'il a fait vendredi. C'était une tentative de se repositionner ou remettre la fondation de tout leur jeu. Et c'est le jeu défensif. Alors, tu sais, Jake Allen, tu as mentionné, il a pris ça très personnel. Il a pris la responsabilité pour la façon que le match s'est déroulé sur lui. Faut dire que c'était pas une situation évidente pour Jake Allen de rentrer dans le match. Je pense que le Canadien perdait 3-2 à ce moment-là. Mm-hmm. Il y avait déjà 5 buts très tôt dans le match. Il avait déjà l'air d'un match weird et il rentre là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas les meilleures conditions, mais lui, il a pas vu ça comme ça. Il a avoué que oui, effectivement, c'est une situation difficile, mais c'est ça ma job. Je dois rentrer, puis je dois tenter de changer des choses, de changer le vapeur du match, puis j'ai pas pu le faire. Mais à mes yeux, tu sais, oui, Jake Allen n'était pas super bon. En fait, Montabeau, j'avais pas un gros problème avec sa performance. Et en fait, j'étais surpris que Martin l'a retiré parce que le troisième but, il aurait dû le stopper, ça c'est clair, mais les deux premiers, il y avait un gars tout seul devant lui. Tu sais, c'était des breakdowns défensifs flagrants, là. Alors, il y a ces jeunes défenseurs-là qu'il faut s'en occuper. Je parlais de Kovacevic. Évidemment, Gouli était dans le match. Tu sais, c'est des choses que Barron... Il faut gérer ces jeunes-là aussi parce que ces matchs-là sont difficiles pour eux aussi parce qu'ils étaient vraiment... Il y avait une vitrine sur eux. Il y avait une spotlight sur eux tout le match à cause de la qualité des chances qu'ils donnaient. Et alors, ça revient au groupe. Ça revient au groupe. Et puis Jake Allen a même dit qu'il en a parlé avec un couple de deux autres juste pour dire que, écoute, c'était un match. On va apprendre de ça, mais c'est pas la fin du monde. T'sais, on a un autre match samedi, puis c'est ça que Jake était tellement content, c'est que ils n'ont pas besoin de penser à ça pendant 2-3 jours. Là.
Non.
Tout de suite samedi.
Mais... Tu sais, on a déjà parlé du fait que le Canadien devait saisir l'occasion en fin de saison pour essayer de rééquilibrer l'utilisation de ces deux gardiens d'ici la fin de la saison, surtout pour pouvoir voir davantage ce que Samuel Montembeau a dans le ventre, puis peut-être faire un partage 50-50 de la situation ou du travail devant le filet. Puis c'est un peu ce à quoi on assiste en ce moment. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était quelque chose qui était prévu par le Canadien d'emblée ou si, dans le fond, c'est les performances de l'un et l'autre qui changent la donne. Parce que là, d'après ce que je comprends, c'est Samuel Montembeau qui va affronter le Lightning samedi.
Ouais.
Tu sais, Jake Allen, après... Jake Allen, au mois de février, les choses allaient tellement bien, il a gagné la Coupe Molson. La fameuse
ouais.
Coupe Molson.
Ouais.
Mais tu sais, en 5 matchs, il y avait un taux d'efficacité de 937. Là, il a participé à 6 matchs au mois de mars. Son taux d'efficacité en mars est de 858, une moyenne de buts alloués de 5,03. Écoute, ça ressemble à la... Ça, c'est
ouais,
des moyennes de buts alloués de Darcy Wakalock puis Steve Skorodansky, là.
Mais ça inclut le match contre la Floride, j'imagine.
Oui, ouais, bien sûr.
Oui, c'est
bien
ça.
Sûr.
Alors, ça change un peu. Tu sais, écoute, il était pas... Il a définitivement eu une baisse, mais... Quand tu donnes autant de buts dans tellement peu de minutes, ça va complètement gonfler ces chiffres-là. Là. C'est particulièrement le moyen de buts alloué parce que, oui, effectivement, à moyenne au-dessus de 5, là, c'est un problème. Mais,
mais ce que je voulais te demander, Arpin, c'est que là, tu dis, Montembeau, ils l'ont remplacé. Il n'était peut-être pas à blâmer sur les deux premiers buts, mais voici la question. C'est que... Manifestement, Martin Saint-Louis cherchait une façon de changer le momentum de ce match-là. Puis contre Colorado, étant donné, bon, l'horaire, puis le fait que il y avait un autre match le lendemain, il était réticent à changer son gardien de but, puis finalement, il l'a fait vraiment sur le tard pour éviter de se retrouver dans une situation qui est trop odieuse pour le gardien de but. Dans ce cas-ci, il a changé son gardien à un moment où il devait se dire, ben, on a encore l'occasion de revenir dans le match, puis on va, sans que ce soit la faute du gardien de but, on va quand même saisir l'occasion, on va profiter de ce geste-là pour essayer de se donner un nouveau départ. Par contre, il aurait pu le faire également par le biais d'un temps d'arrêt. Puis je me dis, il me semble que Martin Saint-Louis pourrait profiter plus souvent d'un temps d'arrêt comme ça au lieu de nécessairement passer cette mesure-là, qui était, à mon avis, se défendait. Là. Après ça, c'est facile de dire, bah, hey, c'était quoi, quelle décision niaiseuse de remplacer Samuel Montembeault voyant la performance de Jake Allen. Sauf que, nonobstant le fait qu'il a décidé de changer de gardien de but, l'option de pouvoir faire un temps d'arrêt était quand même là, puis il ne l'a pas pris. Puis il me semble que, beaucoup plus souvent dans le cadre d'un match, les entraîneurs auraient l'occasion de prendre des temps d'arrêt pour essayer justement, puis ça aurait été un bon moment, me semble.
Ouais, c'est possible. C'est quelque chose que... Écoute, je pense que dans ces deux aspects-là, ce sont des choses que Martin Saint-Louis est encore en mode apprentissage. Mm-hmm. Quand retirer un gardien, ou quand changer de gardien, je veux dire, quand retirer le gardien en fin de match, quand utiliser ton temps d'arrêt, toutes les choses de gestion de match, là, c'est quelque chose qui apprend. Il y a beaucoup d'expertise en beaucoup de choses, mais il serait le premier à admettre qu'il y a des choses à apprendre, et ça, c'en est un. Alors, oui, peut-être qu'il aurait pu prendre un temps d'arrêt. Est-ce que ça changerait grand-chose? Je ne suis pas certain, mais il aurait pu l'essayer. Même le fait de ne pas avoir un skate matinal avant le match jeudi, parce que l'hôtel de l'équipe est à côté de la plage, à Fort Lauderdale. L'aréna à Sunrise est très loin. Ça peut prendre 45 minutes des fois avec le trafic pour se rendre.
Ouais,
puis son logique, c'était... Puis plusieurs équipes de la Ligue nationale font ça en Floride. Écoute, à côté de la plage, va sur la plage, fais tes exercices, fais toute ton activation du matin là. Mais tu sais, la logique, c'était passer 45 minutes en bus pour aller passer 15 minutes sur la glace puis après un autre 45 minutes pour revenir. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Après le match, il était comme... Écoute, je pense pas que c'est un facteur, mais peut-être. Il va falloir que je revoie ça. Tu sais, ce sont des choses que Martin est en train d'apprendre. Tu sais, puis je pense que ce qu'on voit en ce moment avec lui, puis on va voir le résultat samedi. Même s'il perd le match, s'ils sont capables d'être dans le match, si on voit une amélioration dans leur jeu, ça serait un signe qu'il y a quelque chose. Il y a un développement qui se passe avec Martin. C'est parce que ça, c'est une situation très semblable du voyage du temps des fêtes. Ils affrontent des équipes qui sont beaucoup plus fortes qu'eux. Mais Martin le mentionne tout le temps, c'est les joueurs qui nous montent, c'est où qu'ils mettent le bar. Et c'est aux entraîneurs de faire en sorte que ce bar-là est maintenu au minimum. C'est qu'au minimum, ce bar-là, ça reste en place. Parce que ces joueurs-là, le groupe qu'ils ont sous la main, ont déjà montré un certain niveau de jeu. Alors, tu peux bien regarder l'alignement et dire, « Ouais, mais il y a Bezil, Harvey Pinard, peut-être toutes sortes de joueurs qui n'ont pas nécessairement leur place en ce moment dans la Ligue nationale. Ils ne sont pas des joueurs de la Ligue nationale. Ils sont juste là à cause des circonstances. Mais ces joueurs-là ont déjà montré... tel niveau de jeu. Alors, les entraîneurs, c'est ça leurs attentes, qu'ils soient capables de jouer comme ça. Et depuis trois matchs, parce que même les défaites avant le match contre le Colorado, c'était des défaites, mais comme on aime dire, c'est des défaites compétitives, competitive losing. C'est comme, il y avait beaucoup de ça.
Ouais.
Par match, par un but, en shootout une couple de fois contre les Carolines et contre les Rangers. C'est des matchs où le niveau de jeu du Canadien était à un certain niveau, puis ils n'ont juste pas été capables de le terminer à cause, effectivement, de déséquilibre de talent entre les deux équipes. Là. Mais là, c'est pas une question de talent. Là, c'est une question de talent, oui, mais c'est aussi une question de joueurs qui sont pas capables d'aller sur la glace et faire ce qu'ils sont supposés faire.
Je voudrais te parler de Nick Suzuki. Drôle de soirée. J'ai vu sur ton compte Twitter hier soir, tu disais que sa punition à la fin du match pour son double échec au visage de joueur des Panthers. Tu disais ça, c'est pas le genre de choses qu'on aurait eu sur notre carte de bingo. Il a été finalement mis à l'amende. Tu sais, Suzuki, en ce moment, étant donné là, qu'il y a Doc qui est blessé, il y a Monahan qui est blessé, évidemment. Dvorak, sa saison est terminée. Evans, on avait dit entre 8 et 10 semaines, ça va faire 10 semaines mercredi prochain, puis je ne sais pas s'il va être apte à revenir au jeu au cours des prochains jours. La ligne de centre est complètement décimée. Et puis, ouais. Suzuki est là, un peu tout seul, par défaut, à tenir le fort, tant bien que mal. Est-ce que tu sens que tout le poids de cette saison-là commence à peser un peu lourd sur ses épaules, puis que se retrouve dans une... Tu sais, les entraîneurs aiment parler de mettre des joueurs dans des situations gagnantes, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, Nick Suzuki, envers qui j'ai absolument aucun doute que c'est un très bon joueur de hockey, là, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'est pas dans une situation gagnante et qu'il est... Il est essoufflé, puis ça le rattrape en fin de saison. Je sais pas si t'as le même feeling par rapport à lui. Là.
Oui, je pense qu'à un certain point, oui, ça le rattrape. Et oui, ça devient lourd. C'est ça. C'est pas nécessairement une question de... question d'habileté. Tu sais. C'est une question de... le fardeau qu'il porte en ce moment. Tu sais. C'est le seul vrai joueur de l'avenir... À part les jeunes défenseurs que j'ai mentionnés tantôt, c'est le seul joueur, j'essaie d'y penser, là, s'il y en a un autre qui m'échappe, mais c'est le seul joueur qui va faire partie du noyau de l'équipe pendant plusieurs années qui joue en ce moment.
À l'attaque, oui.
Il n'y en a pas devant le filet. Il y a Kane Gooley, peut-être Justin Barron en défense. Puis that's it, là. C'est pas. Puis Nick Suzuki, c'est le seul attaquant. Puis l'équipe. Puis écoute, on va pas le cacher, il se retrouve sur la glace pour plusieurs buts de l'adversaire. Ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Puis lui, il trouve ça lourd. Il y a des raisons pour ça. Il y a des excuses valides, je dirais, pour ça. Mais il veut pas. Lui, il veut pas faire des excuses. Lui, il veut performer. Alors. Oui, je suis d'accord. Honnêtement, hier soir, j'ai pris la décision d'aller voir les Panthers parce que j'ai fait un échange de citations avec notre collègue Eric Engels de Sportsnet parce que je voulais que quelqu'un soit dans la chambre des Panthers après un match comme ça pour avoir les deux côtés de ce qui s'est passé, de ce qu'on venait de voir. Puis effectivement, ça valait la peine parce que Paul Murray, c'était super drôle là-dessus. Mais Nick Suzuki, je l'ai regardé par après, puis tu le vois, là. Tu le vois à quel point ça commence à devenir lourd. Puis honnêtement, ça, c'est un autre aspect de l'entraînement de vendredi et tout ce qui s'est passé vendredi qui m'a frappé, c'est parce que ça serait normal pour un joueur qui est dans la situation de Nick, le seul joueur à avoir disputé chaque match de l'équipe cette saison.
Ouais.
Et regarder le calendrier, et dit, puis je suis presque rendu. Tu sais, on est presque là. C'est presque fini. Ça a été difficile. C'est une saison difficile avec des circonstances difficiles. Blessure après blessure après blessure. Puis ce match-là, c'était juste une autre chose à rajouter. Et je comprendrais que ça commence à devenir long. Là. C'est que, tu sais, et tu veux pas permettre que cette notion-là devient correcte. Si le capitaine commence à sentir ça, ben ça va commencer à se sentir parmi toute l'équipe. Alors, encore une fois, un entraînement comme ils ont eu vendredi, tout le meeting qu'ils ont eu, le message qui a été envoyé aux joueurs, c'est... c'est une tentative de mettre fin à ça pour dire oui, on a connu une mauvaise saison, on a connu une saison difficile. Oui, il nous reste seulement une douzaine de parties à jouer, mais il faut qu'on les joue. Il faut qu'on tire quelque chose de ces matchs-là. Il faut qu'on profite de ça d'une certaine façon. Et ce message-là était important aussi parce que tu le vois sur la face de Nick à chaque fois qu'il parle.
Ouais, puis je me demande si, tu sais, probablement que le Canadien va finir par trouver des réponses à ses problèmes structurels en termes de blessures qui l'assaillent depuis 2 ans. Alors, peut-être que le Canadien se dit, ben, l'année prochaine, on va se retrouver avec tous nos joueurs de centre qui vont être en santé, puis il va être mieux épaulé, puis il y aura moins de pression sur lui. Puis la saison 22-23, ben, ça aurait été une saison d'apprentissage, puis c'est correct. Mais en même temps, est-ce qu'il y a... Je regarde les choses autrement, puis je me dis, est-ce que le Canadien va juger qu'il a peut-être besoin d'être mieux épaulé qu'il l'a été jusqu'à maintenant, tu sais? Peut-être qu'une partie de la réponse, ça va se dépendre de la performance de Kirby Doc là, la saison prochaine, mais peut-être que, je ne sais pas, est-ce qu'on va se rendre jusque-là, mais c'est juste que là, c'est la troisième saison complète qu'il passe au centre d'un trio top 6, et il est et tu sens qu'il va par des hauts et des bas qui sont pas tous de sa faute, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'il fait sa large part pour cette équipe-là, mais je pense qu'une partie du développement des joueurs, c'est pas seulement d'être, de les exposer à différentes situations, puis dire, ben, tombe, puis apprends à te relever, mais c'est aussi de s'assurer que ces joueurs-là sont suffisamment bien encadrés, puis pour l'instant... je me pose la question à savoir si le Canadien juge que Suzuki est suffisamment bien encadré. Son contrat en début de saison dernière suggère que le Canadien pense qu'il a les épaules assez larges pour pouvoir prendre tout ce qu'on lui demande de prendre. Mais en même temps, c'est encore relativement un jeune joueur. Est-ce qu'il a véritablement l'étoffe pour continuer malgré tout? Peu importe qui vont être les autres joueurs de centre derrière moi. Moi, je peux continuer puis réussir à trouver un rendement sur 82 matchs parce que quand tu es le capitaine d'une équipe perdante, ça devient d'autant plus lourd. T'sais. Fait que j'ai de la misère à me positionner par rapport à ça.
Ben, quand tu parles de joueurs de centre qui vont jouer derrière moi, je pense que dans un monde idéal, il y aurait un joueur de centre qui jouait devant lui, à l'avant lui. Ça ne veut pas dire que c'est pas un joueur qui est capable d'être un premier centre dans la Ligue nationale, mais sur une équipe gagnante, sur une équipe qui est une prétendante pour la Coupe Stanley, je pense que dans un monde idéal, ça serait ton deuxième centre. C'est drôle, mais t'sais, Nick Suzuki a marqué 21 buts, il a 51 points, il a connu une bonne saison. T'sais, c'est comme il connaît une bonne saison.
Ouais.
C'est un joueur qui a eu aucun niveau de constance parmi ses alliés depuis Noël, pas mal. Je regardais... en fait, ça c'est comme juste en passant, là, mais j'ai décidé de regarder le match de Denis Gourianov avant que Pete DeBoer l'a mis healthy scratch en octobre. Et ce match-là, c'était contre le Canadien. Alors, en regardant ce match, c'était vraiment weird de voir comme tous leurs joueurs dans l'alignement. C'est comme, oh, il y a Juraj Slafkovský, ah oui, c'est vrai, il a joué cette saison. Brendan Gallagher joue. Wow! Cole Caulfield est là. Wow! C'était comme une toute autre équipe. C'est tellement noir et blanc avec l'équipe qu'on voit maintenant. La seule constante, c'est Nick. C'est le seul gars. Alors, et je trouve que toute sa carrière, à date, il y a eu des obstacles comme ça. T'sais, il n'y a pas eu... Il arrive dans la ligue, puis tout d'un coup, Philippe Dano s'en va. Puis lui, c'est le premier centre de l'équipe. il y a les blessures cette saison, il y a les blessures la saison passée. Il y a eu le parcours jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. C'était quelque chose de très favorable pour le développement de Nick Suzuki. Mais à part ça, depuis qu'il est arrivé à Montréal, il n'y a pas grand-chose qui a vraiment aidé sa développement. Tout d'un coup, il se retrouve comme capitaine. Et l'autre affaire, c'est qu'en mois d'août, il va avoir 24 ans. Et la façon que la Ligue fonctionne, écoute, 24 ans, t'es pas vieux, là, mais t'es plus jeune à 24 ans. À 24 ans, t'es un joueur de la Ligue nationale.
T'approches ton prime.
Ben, c'est ça. Alors, l'étiquette de jeune joueur, ça s'applique plus quand t'es rendu. Même à 23, tu peux faire l'argument, mais définitivement, 24, 25, là, t'es plus un jeune joueur. Alors, puis effectivement, il va se rapprocher. Écoute, s'il joue le reste des matchs, il va être presque juste en dessous de 300 mètres joués dans la Ligue nationale. Alors, pour moi, peu importe ce que le Canadien fait dans l'entre-saison, je pense que ce serait important pour Nick Suzuki. Alors, je pense qu'on va savoir vraiment qu'est-ce que le Canadien a avec Nick Suzuki. Est-ce qu'il va prendre, est-ce qu'il y a un autre step à prendre? Puis s'il va le prendre, il doit pas mal le prendre la saison prochaine. Parce que sinon, il va pas mal être le joueur qu'on voit, ce qui est correct, ce qui est fine. Mais c'est pas un joueur de premier, c'est pas un centre de premier trio typique des équipes qui remportent la Coupe Stanley. À date. Peut-être qu'il y a un autre niveau à son jeu, peut-être qu'on va le voir la saison prochaine, mais à date, c'est pas le prototype, tu sais, c'est comme, c'est pas, tu sais, même Andy Kopitar, c'est un joueur, un two-way, tu sais, c'est un gars qui joue aux deux bords de la patinoire. C'est pas une machine offensive nécessairement, mais c'est quand même un gars qui a été capable de driver le jeu. Il était vraiment le moteur de ces équipes des Kings. Là. Lui et Doughty et Quick, évidemment. Mais alors, t'as pas besoin d'être super, super vedette au centre pour être le premier centre d'une équipe gagnante. Mais je pense que Nick a une autre coche qu'il doit démontrer. Pour que le Canadien peut aspirer à ces choses-là.
J'aimerais ça qu'on termine un peu avec un petit, tu sais, on dit OK, on pose des questions par rapport à Suzuki, puis est-il un joueur, c'est pas un genre, un prototype de premier centre d'une équipe qui se bat pour la Coupe Stanley. Mais j'aimerais ça qu'on regarde les équipes qui ne se battront pas pour la Coupe Stanley, mais qui vont se battre potentiellement pour le premier rang ou premier choix au pêchage de 2023. Parce que là, le Canadien bouge un petit peu. Si on regarde le classement des derniers jours, en ce moment, là, pour moi, quand je regarde dans le Connor Bedard Bowl, là, si tu veux, la chose qui me frappe, là, c'est à quel point les Coyotes de l'Arizona sont devenus une puissance à domicile. Ils ont un phénomène Mullet Arena qui se passe. Ils ont passé le Canadien au classement. On anticipait que ça pouvait être le cas à cause, d'une part, du calendrier du Canadien, mais aussi celui des Coyotes. Alors, là, ça commence à bouger un petit peu dans le fond du classement. Vraiment, l'équipe qui, à mon sens, est le plus à surveiller dans la bataille que livre le Canadien à d'autres formations pour les meilleures probabilités en vue du repêchage, c'est vraiment les Flyers de Philadelphie. Parce que de toutes les équipes, en ce moment, là, tu regardes, les Coyotes ont pris du momentum. Les Blackhawks de Chicago se sont mis à remporter des matchs également. Anaheim, de temps à autre. Mais les Flyers de Philadelphie, eux, sont vraiment en grande, grande perte de vitesse. Et puis, je me pose la question de savoir si à un moment donné, ça va s'arrêter leur affaire ou si le Canadien peut, en guillemets, espérer ou si nous, en tant que personne qui, veut, d'une certaine manière, voulons le bien du Canadien, on peut espérer que le Canadien finisse 28e au lieu de 27e. Mais là, Philadelphie a remporté seulement 2 de ses 10 derniers matchs. Ils en ont perdu 4 de suite. Puis, ils commencent à glisser au classement. Fait que comment tu vois la suite des choses? Parce que, tu sais, Chicago, les 4 derniers choix, les 4 dernières équipes, à mon sens, là, Chicago, Anaheim, San Jose, Columbus, le Canadien ne pourrait pas dégringoler suffisamment pour se retrouver dans ce quatuor d'équipes-là. Par contre, ils ont seulement un point d'avance sur Philadelphie. Comment tu vois cette lutte-là se dessiner au cours des prochains jours?
Honnêtement, Chicago est en train de... se mettre dans la discussion. Tu sais, je ne veux pas dire... Écoute, il y a 6 points de retard contre les Canadiens. Il y a 5 points de retard avec les Flyers. Mais ils ont une fiche de 3-2 et 1 dans leurs 6 derniers matchs. Ces 3 victoires-là étaient 5-0 contre Ottawa, 6-3 contre Boston et 2-1 contre, 2-1 contre Nashville.
Ouais.
Ils ont perdu en prolongation contre la Floride. Puis, check ça, samedi soir, ce qui joue à Arizona, c'est les Blackhawks. Alors, je sais pas, je me demande, les Blackhawks ont aucune... Tu sais, je pense que l'alignement du Canadien de 1 à 18, là, c'est probablement pire que celui des Blackhawks, mais celui des Blackhawks est très proche.
Hey,
tu sais, ils ont vidé ce qu'il y avait à vider. Jonathan Toews, vraisemblablement, ne jouera plus, ou je sais pas à quel point, mais l'alignement est tellement le minimum. Et ce que Luke Richardson est en train de faire à Chicago, honnêtement, c'est quelque chose d'intéressant. Mais, si étant dit, je suis d'accord que c'est vraiment une lutte avec les Flyers, entre les Flyers et les Canadiens. Le Canadien a toujours le calendrier le plus difficile de la Ligue d'ici la fin de la saison, en raison de toutes ces visions. C'est le reste des matchs, c'est comme tu viens de mentionner, 2 contre Tampa, 1 contre Boston, t'as Columbus après, mais t'as Buffalo. Il y a un gros match le 28 mars à Philadelphie. Mais après ça, c'est Floride, Caroline, Détroit, Washington, Toronto, Islanders, Bruins. Alors, c'est pas facile. Les Flyers, de leur part, ont quand même un calendrier pas mal moins difficile, puis ils terminent la saison avec un match à domicile contre Columbus, puis un match à Chicago, ce qui est un peu bizarre. C'est un peu bizarre qu'ils terminent la saison contre une équipe de l'Ouest, mais c'est ça. Leurs deux derniers matchs, c'est Columbus et Chicago. Les deux derniers matchs du Canadien, c'est les Islanders et Boston. Alors, sur un back-à-back. Alors, avec du voyagement en plus. Alors, je sais pas. Ça va être vraiment quelque chose à suivre. Comment les Flyers vont, comment le Canadien va, parce que, écoute, il va pas bien en ce moment-là. Alors, c'est pas comme si... mais, tu sais, en principe, en ce moment, les Flyers ont un meilleur pourcentage de points que les Canadiens. Alors, même s'ils sont un point en retard, ils ont 2 matchs de plus à jouer. Alors, leur pourcentage de points est meilleur que les Canadiens. En principe, avec, quand tu mets tout ensemble, moi, je m'attendrais que les Canadiens terminent 28e. Ou avec les 5e meilleures chances de remporter la loterie en juin.
Ouais.
En juin? Non. Ah, c'est
en... En fait, c'est... Ouais, ouais, c'est à la fin juin. C'est 27
juin. Non, ça, c'est le repêchage. Mais la loterie, je pense... je pense que c'est
la loterie comme telle. Ben, écoute, la loterie, c'est le 8 mai.
Alors, c'est ça. Ouais. Je pense... ça s'enligne pour ça. Puis ce que le monde doit retenir, c'est que quand tu as les 5e meilleures chances pour remporter la loterie, en fait, la position qui a les meilleures chances d'être, et c'est une position en arrière. Tu as une meilleure chance de reculer d'une position que de rester en place, en 5e, si je ne me trompe pas. Alors, s'il termine 28e, tu as les plus grandes chances de choisir 6e dans le repêchage. Alors, toutes ces petites changements dans le classement ont vraiment un vrai incidence sur la qualité du choix que le Canadien va avoir. Si jamais il était capable, je sais pas comment, mais je vois mal comment Anaheim ou Chicago seront en mesure de dépasser le Canadien et les Flyers. Mais c'est ça. Il faut voir, mais honnêtement, 5e meilleure chance, c'est pas super. Honnêtement, je trouve que c'est un bon déroulement de leur saison. sais, ça leur donnerait un peu de tout. Il y avait un moment où ils étaient compétitifs, un moment où ils n'étaient vraiment pas compétitifs, un moment où ils ont été capables de reprendre leur jeu et retrouver leur jeu. Là, ils passent dans une petite phase où ils ne sont pas compétitifs encore. Puis, s'ils peuvent rester dans cette phase-là jusqu'à la fin de la saison, ça va être probablement dur pour les joueurs, mais ça aiderait leur cause dans ce qu'on dit maintenant.
Ouais, surtout que l'équipe est entre autres pas compétitive à cause du très grand nombre de blessés. Puis, au train où les choses vont, je suis pas certain que le Canadien va avoir beaucoup de renforts dans les prochaines semaines. Fait que, parce que là, on continue de rester dans le flou par rapport à Kirby Doc. Continue de rester dans le flou par rapport à Yoel Armia, qui est encore aux prises avec une mystérieuse infection respiratoire. Je pense que le Canadien a de la misère à aller au fin fond de cette histoire-là. Monahan, je ne m'attends pas à le revoir cette année. Gallagher, je commence sérieusement à me poser des questions aussi, à savoir si on va le revoir cette année. Il y avait les dernières projections suggéraient qu'il pourrait revenir peut-être avant la fin du calendrier. Mais regarde, ça vaut ce que ça vaut.
Je pense que Gallagher, la seule façon que Gallagher joue, c'est si lui, il insiste sur jouer. C'est la seule façon. Les Canadiens vont lui donner l'option, je pense, si jamais il est en santé, évidemment.
Ouais. All right. Ben écoute, tenons-nous-en à cela pour aujourd'hui. Ben merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique. On va vous retrouver lundi pour The Athletic Support. Donc d'ici ce temps-là, ben, on va voir comment le Canadien se débrouille par rapport au Lightning de Tampa Bay. Bien hâte de voir si Jonathan Drouin va être en mesure d'affronter ou non son ancienne équipe. Une ancienne équipe qui n'a jamais eu vraiment beaucoup de succès contre le Lightning, soit dit en passant. Fait que, tu n'iras pas chez Burns Steakhouse, toi, ce soir?
Ben non.
Tu vas manquer
je travaille. Burns à cause... Je travaille.
Tu travailles?
Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux?
Bon.
Je suis pas ici pour... C'est pas des vacances.
C'est pas ici pour manger.
Non, ben, tu sais, j'aimerais ça manger quelque chose à un moment donné. J'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui, mais manger à Burns, ça m'aurait... J'aurais aimé ça, mais non, ça va pas être possible, sauf si j'y vais très tard. Ce qui est possible. C'est une possibilité.
All right. Bon, ben, bon appétit, bon travail, puis merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. À lundi.
As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10. Place your first bet on any game and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.